Le journal Fanny Marceau. Bonjour Fanny.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Il est en quête de soutien et de parrainage, mais s'il y a un domaine dans lequel Éric Zemmour est bien entouré, c'est la préparation de son programme, avec des grosses pointures qui jouent les petites mains. C'est une information que vous révèle Europe 1 ce matin. Bonjour Victor Chabert.
Bonjour Fanny, bonjour à tous.
Vous avez enquêté pour Europe 1 sur les coulisses de la campagne Zemmour et notamment sur ceux qui sont à la manœuvre autour de son programme. Ce que vous nous dites ce matin, Victor, c'est que son équipe est déjà très structurée.
Oui, et à sa tête, il y a un homme, Jonathan Nadler, c'est un banquier d'affaires. Ces derniers mois, il a mis en place 28 pôles thématiques qui sont autant de ministères potentiels, éducation, industrie ou encore souveraineté juridique, avec pour mission de produire des notes, des analyses et des propositions pour le candidat. Chaque pôle se compose de 8 à 30 personnes, ça fait donc beaucoup de contributeurs qui passent leur soirée à plancher sur le programme d'Éric Zemmour. Le fonctionnement est bien rodé, les 28 chefs de pôle se réunissent en visio tous les dimanches soirs autour de Jonathan Nadler. Et dans chaque groupe, il y a des membres des administrations publiques. Ils sont chargés de vérifier la faisabilité technique des propositions avec l'objectif d'aboutir à des mesures concrètes.
Victor, en contribuant au programme d'Éric Zemmour, certains hauts fonctionnaires prennent des risques pour leur carrière.
Oui Dimitri, c'est très sensible. D'après nos informations, dans cette équipe qui travaille pour Éric Zemmour, il y a des ambassadeurs en poste, en exercice, des diplomates soumis à un devoir de réserve très strict. Ils ne veulent d'ailleurs pas que l'on connaisse leur nom pour ne pas être sanctionnés. D'autres contributeurs, eux, ne sont pas exposés parce qu'en retraite, c'est le cas du général de la Chesnée, général 4 étoiles et ancien numéro 2 de l'armée de terre, ou de Pierre Brochand, ancien patron de la DGSE. Cette équipe a déjà produit des propositions concrètes, 75 à 80 depuis le début de la tournée littéraire d'Éric Zemmour. Le programme complet du candidat sera rendu public début 2022.
Victor Chabert du service politique d'Europe 1.
La politique toujours, 64%, c'est le taux de participation hier soir à 21h15 au premier tour du congrès des Républicains dont les résultats sont attendus à 14h.
Ça va se jouer dans un mouchoir de poche. S'il y a un second tour, il livrera son vainqueur samedi après-midi.
Pendant ce temps, Emmanuel Macron rend hommage à Valéry Giscard d'Estaing. Aujourd'hui, ce sera à Strasbourg.
Un an, jour pour jour, après sa mort. Cérémonie à laquelle participent plusieurs chefs d'État européens, présidents des institutions de l'UE et personnalités qui l'ont côtoyé.
Il est 8h03. Weni, Widi, mais pas Wiki, semble-t-il. Venu, vu, mais il repart sans avoir pu apaiser les tensions. Après 3 jours aux Antilles, Sébastien Lecornu est de retour à Paris. Mais sur place, semble-t-il, rien n'est réglé.
Et cela dit, en Guadeloupe, plusieurs barrages ont été levés ces dernières heures. La présence renforcée des forces de l'ordre semble donc porter ses fruits. Pourtant, la visite en début de semaine du ministre des Outre-mer a tourné court. La rencontre avec les syndicats n'a duré que quelques minutes à peine. Aucune négociation n'a pu être entamée. Séjour au goût amer donc pour Élie Domota, le leader du LKP qui rassemble plusieurs organisations syndicales et associatives de Guadeloupe.
Il a essayé de jouer au zoo. Il n'a jamais cherché à comprendre ce qui se passait réellement en Guadeloupe. Il a donné le sentiment d'être quelqu'un de dialogue et ouvert à la discussion, ouvert à la négociation. Et ce qu'il a dit dans sa conférence de presse après, c'était pas du tout ce qu'il nous a dit lorsqu'il nous a rencontrés avec cette histoire de dénonciation, de tir sur les forces de l'ordre, tout ça. Nous, on n'a jamais vu ça. Il nous a jamais parlé de ça. On n'est pas au courant. Il n'a jamais demandé de faire quelque déclaration que ce soit. Donc, je crois qu'il a très mal appréhendé les choses. Il n'a aucune sensibilité pour l'outre-mer. Il n'est pas fait pour ce poste. C'est une erreur de casting.
Élie Domota au micro de Mathieu Bock.
En Martinique, la situation est également toujours bloquée, malgré, là encore, la visite du ministre.
Et Florin Aussu, vous êtes en direct avec nous depuis Fort-de-France. Le séjour express de Sébastien Lecornu n'a pas permis en Martinique d'apaiser les choses. Violence et barrage encore ce matin?
Oui, notamment dans la commune du Lamentin, dans le centre de l'île. Cette nuit, les forces de l'ordre ont mené une opération d'envergure pour libérer l'un des ronds-points paralysés depuis 10 jours. Des affrontements ont eu lieu avec des bandes de jeunes durant plusieurs heures. La circulation dans l'île demeure compliquée. Une dizaine de barrages sont toujours en place ce matin. Le port maritime, le point stratégique de l'économie, est lui aussi toujours bloqué. Et les négociations tardent à commencer entre syndicats, services de l'État et élus locaux. L'intersyndicale qui qui a dénoncé dans les médias hier soir les propos du ministre des Outre-mer, faisant de la Guadeloupe en quelque sorte dans cette crise le mauvais élève par rapport au bon élève que serait la Martinique.
Florin Aussu, correspondant d'Europe 1 en Martinique, les Antilles, où Sébastien Lecornu envisage de retourner dans quelques jours. Il est l'invité dans un instant de Sonia Mabrouk. Première interview en exclusivité sur Europe 1 ce matin depuis son retour à Paris.
Cette question également, les Verts savaient-ils que Nicolas Hulot pouvait être un prédateur sexuel? Dossier dans Paris Match ce matin.
Avec de nouvelles accusations et une victime de plus, fille d'une ancienne ministre du gouvernement Jospin. On en parle à 8h40 dans le Zoom Info avec les équipes de Paris Match.
Dans l'actualité sanitaire, de nouveaux cas de Covid chaque jour, près de 50 000 sur la seule journée d'hier.
La reprise de l'épidémie est fulgurante et certains secteurs économiques en paient déjà le prix. C'est le cas par exemple de la restauration, Carole Ferré.
L'activité avait pourtant bien démarré, surtout depuis la mise en place du pass sanitaire. Mais depuis quelques jours, force est de constater que les clients vont moins au restaurant. Buffalo Grill et Courte Paille, par exemple, enregistrent une baisse de 5% de leur chiffre d'affaires. Pareil pour Philippe Herry, le directeur général d'Hippopotamus et de Léon.
C'est des activités qui sont fortement liées au moral des Français. Donc quand les Français ont le moral, bah, effectivement, ils consomment très fortement à l'extérieur. Là, on voit qu'il y a une reprise de la pandémie et on constate depuis 10 jours, oui, une baisse d'activité par rapport à ce qu'elle était précédemment.
Gros coup de frein également sur les réservations pour Noël et le jour de l'an, même si ceux qui avaient déjà réservé n'annulent pas pour le moment. Aujourd'hui, ceux qui font marche arrière, ce sont surtout les grandes tablées d'entreprise, selon Pascal Mousset, patron du restaurant Chez Françoise à Paris.
Oui, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai une table de 60 et une table de 30 qui m'ont téléphoné pour m'annuler leur déjeuner de la semaine prochaine, qui étaient des déjeuners traditionnellement de fin d'année. Et je constate, beaucoup de mes confrères me remontent de telles situations.
Et la crainte, bien sûr, c'est de perdre du chiffre d'affaires alors que les aides de l'État ont quasiment été supprimées.
Carole Ferry du service économie d'Europe 1. Hier, le ministre de la Santé, Olivier Véran, a rejeté l'idée d'une obligation vaccinale en France. Alors qu'Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, estime qu'il faut réfléchir à cette option. En Grèce, décision a déjà été prise pour les plus de 60 ans.
Et en Allemagne, la coalition au pouvoir a dit également y songer. Bah tiens, l'Allemagne, justement, après 16 années à la tête du pays, Angela Merkel va laisser sa place d'ici quelques jours à Olaf Scholz, passation de pouvoir la semaine prochaine après le vote solennel des députés du Bundestag.
Mais c'est ce soir que commence la cérémonie d'adieu. L'armée allemande lui rend hommage, un hommage officiel dû à chaque chancelier lorsqu'il quitte le pouvoir. Tradition militaire depuis 4 siècles qui aura lieu en grande pompe dans la cour d'honneur du ministère de la Défense à Berlin, Hélène Kohl.
Casque brillant, bottes cirées, fanfares et flambeaux dans la nuit, autant d'apparat a de quoi surprendre depuis 1949 l'esprit de la République fédérale allemande. C'est avant tout la sobriété et l'efficacité, et à cause de l'histoire, on évite les défilés de soldats. Ce cérémonial d'adieu militaire est une exception. Angela Merkel ouvrira la soirée avec un court discours à ses 200 invités. Puis il y aura l'hommage de la Bundeswehr, 45 minutes en musique. Ses prédécesseurs avaient voulu entendre du Beethoven ou du Sinatra. Angela Merkel a fait une sélection très personnelle, un chant religieux pour elle qui est une fille de pasteur, puis un tube de RDA, interprété à l'époque par Nina Hagen avant sa période punk, une ritournelle naïve qui renvoie à la jeunesse est-allemande de Merkel, tout un monde englouti mais important pour l'identité de 16 millions d'Allemands. Enfin, la chancelière a demandé un classique de la chanson à texte qui proclame, je cite, « Je veux gagner, je veux être libre, je veux être grande ». Je veux tout ou rien. Merkel tire donc sa révérence sur un hymne féministe. On ne l'attendait pas sur ce terrain. Berlin, Hélène Kohl, Europe 1.
En français, tu as oublié la couleur. Le titre de Nina Hagen qui accompagnera le départ d'Angela Merkel.
Sébastien Lecornu lève les sourcils. Vous saviez qu'elle écoutait Nina Hagen, Angela Merkel?
On fait toujours bien d'écouter Europe 1. Je ne le savais pas.
et on fait toujours mieux aussi d'écouter Nina Hagen. Merci Fanny Marceau.